écrit l'ici avec le Ciala. C-I-A-L-A.
Collectif interculturel d'auteurs de Loire-Atlantique.
Rencontrer un auteur, ça vous dit ?
Alors retrouvez-nous le deuxième mercredi du mois à 17h30 sur Jet FM 91.2 et le quatrième mercredi du mois, toujours à 17h30, toujours sur Jet FM 91.2.
Ou en podcast sur jetfm.fr.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour André.
Bonjour.
Bonjour Martine.
Bonjour.
Bonjour Alex Videri.
Bonjour.
Et bonjour Caroline Foisson.
Bonjour.
Écrit d'ici, l'émission qui donne la parole aux auteurs, reçoit donc aujourd'hui Alex Videri et Caroline Foisson pour un récit paru aux éditions Nombre 7 fin 2022. La particularité aujourd'hui, c'est qu'on vous reçoit à deux, parce que justement, c'est une écriture que l'on peut qualifier à quatre mains. L'une ayant mis en mots l'histoire de l'autre, si on peut s'exprimer ainsi. En effet, ce récit raconte votre histoire, Caroline, mise en mots par Alex Videri. Alors, notre première question traditionnelle autour de l'écriture dans la vie des auteurs, on va vous la poser à chacune. Alex Videri, on a envie de savoir pourquoi écrire l'histoire d'une autre, hein, et d'ailleurs, vous nous direz comment on appelle le fait de faire ce travail, alors que vous avez aussi écrit en votre propre nom. Et puis, Caroline Foisson, pourquoi confier son histoire assez intime à la plume de quelqu'un d'autre ? Voilà, je vous laisse la parole.
Alors, pourquoi écrire l'histoire de quelqu'un d'autre ? Moi, c'est venu un petit peu par hasard il y a 2 ans, parce que j'écrivais effectivement des romans et une de mes lectrices m'a contactée en me demandant d'écrire son histoire. Donc c'est la première biographie que j'ai écrite, qui est parue aux mêmes éditions. Et donc cette personne avec qui on a fait un travail extraordinaire a été bouleversée par la catharsis que ça a pu occasionner chez elle. Et donc elle en a parlé à son amie Caroline, qui avait elle aussi vécu un drame et qui souhaitait depuis longtemps écrire son histoire. Donc voilà, elle nous a mis en relation toutes les deux et puis ça a matché tout de suite. Hein. J'étais à Rome quand elle m'a appelée.
Oui, c'est vrai.
Voilà, j'étais en plein voyage avec mon mari et du coup on est resté tout un moment au téléphone et avec le projet de se rappeler très vite à mon retour et de mettre tout ça en place.
Merci.
Du coup, en fait, je voulais à tout prix laisser une trace à mes enfants. Et comme je ne suis pas du tout écrivaine, enfin, je ne sais pas comment on peut le dire, je ne me sentais pas capable d'écrire un livre toute seule. Et du coup, quand on lit des livres, c'est vrai qu'il y a des tournures de phrases, il y a des chronologies, enfin... C'est compliqué à faire, on ne peut pas se dire auteur du jour au lendemain. Et du coup, en fait, mon amie m'avait dit qu'elle connaissait quelqu'un. Et justement, je l'ai appelée, le contact est très bien passé. Et tout de suite, je me sentis en confiance et j'ai pu délivrer mon histoire avec des rires, des pleurs. Enfin, on est passé par toutes les émotions, toutes les deux. Et c'était vraiment un très beau moment, très beau moment.
Merci beaucoup. Alors, il y a une sous-question, parce que bien évidemment, on va pousser la curiosité jusqu'au bout, qui est un peu technique, c'est-à-dire comment on fait quand on écrit l'histoire de l'autre et comment on fait quand on fait écrire son histoire. C'est-à-dire, assez techniquement, c'est des bouts d'écriture l'une l'autre, c'est une reprise de l'écriture de l'une ou c'est juste le récit qui est mis en mots, vous voyez ?
Alors, il y a un petit peu de tout. C'est une très bonne analyse que vous faites. On le voit dans le livre parce qu'il y a des passages en italique, justement, qui sont les passages écrits par Caroline, sur lesquels je ne me suis contentée que de rectifier des fautes d'orthographe ou de syntaxe. Ils apparaissent vraiment tels qu'elle les a écrits. C'était très, très important qu'elle laisse sa trace à elle, sa plume. Et autrement, pour tout le reste, ce sont des heures et des heures et des heures d'entretien, toutes les deux, en visio la plupart du temps, puisqu'on n'habite pas dans le même département. à l'occasion de quelques rencontres aussi qui rendaient les choses beaucoup plus fortes encore. Et donc du coup, voilà, moi, suite à ces heures d'entretien, j'écrivais des pages, voire des chapitres que j'envoyais à Caroline. Et après, il y avait toujours plusieurs recorrections ensemble. Voilà, soit d'éléments qu'elle n'était peut-être pas prête à livrer tels que moi je les écrivais, ou de rectifications de choses que moi j'avais pu mal comprendre aussi lors des entretiens. Voilà. Donc,
Puis il y avait des passages aussi où parfois c'était trop douloureux. Du coup, on laissait et on repassait sur un autre chapitre et on revenait après dessus. Enfin, on faisait comme on le sentait toutes les deux en fait. Donc c'était vraiment un très bon feeling surtout et ça s'est vraiment très bien passé le livre.
C'est ça. C'est qu'il y a une chronologie dans le livre qui a été vraiment respectée. On a choisi une chronologie du début jusqu'à la fin, mais on l'a pas forcément écrit dans cet ordre-là. Par rapport aussi à ce que ressentait Caroline et ce qu'elle était à l'instant T capable de supporter, de délivrer.
Comme dans les tournages de films.
C'est ça.
Merci beaucoup.
Donc, dans le récit Sauvé par l'amour, Alex Videri prête sa plume à Caroline Foisson. Caroline relate des épisodes saillants de sa vie, tour à tour exaltants et douloureux. La mort accidentelle de son compagnon déclenche une onde de choc émotionnel. Le chagrin et la douleur de la perte, la solitude pour mener la grossesse à terme et le combat pour que l'enfant porte le nom de son père sont à la fois des épreuves et des points d'ancrage pour se relever.
Ça me fait des frissons d'entendre.
André nous lit un premier extrait.
Ce fut un parcours long et fastidieux avant que je ne parvienne à tomber enceinte. Deux années qui nous parurent une éternité. Les premiers mois passèrent sans que je n'y pense constamment. Pourtant, le temps défilant, mon espoir semblait s'amoindrir, mais pas ma détermination à donner à l'homme que j'aimais cet enfant que nous désirions tant. Pourquoi moi n'avais-je pas droit à ce bonheur ? Certains nous disaient que je faisais un blocage du fait de trop y songer. Probablement me mettais-je une pression trop importante à tomber enceinte, mais je préférais chercher des raisons médicales à ces échecs répétitifs. Nous commencions avec JC à envisager de passer des examens et nous préparions psychologiquement à entrer dans un parcours de procréation médicalement assistée. Nous commencions donc ce long chemin de PMA, reflet, bien souvent, du parcours du combattant que vivent des milliers de couples français qui ne parviennent pas à avoir un enfant naturellement. Prise de sang, échographie, hystérographie douloureuse et spermogramme. Nous affrontions chacune de ces étapes difficiles ensemble, main dans la main. Quelques mois plus tard, tandis que nous nous préparions à nous rendre à Paris pour le week-end d'anniversaire d'une amie, je réalisais que j'avais un retard menstruel. Par acquis de conscience, je décidais, malgré de gros doutes, de faire un test de grossesse. Je demandais une prise de sang sur le matin de notre départ. Plus tard dans la matinée, le laboratoire m'apporta à la pharmacie, durant mes heures de travail, pour m'apprendre la plus belle nouvelle de ma vie, j'étais enceinte. Quelle surprise, mais surtout, quelle joie immense m'envahit. Alors, avec le recul, je me dis que les choses n'arrivent pas par hasard. J'avais perdu mon pépère Léon peu de temps avant, et certainement cela m'avait-il suffisamment occupé l'esprit pour que je ne pense plus à cette grossesse tant désirée, permettant peut-être ainsi le déblocage de l'emprise psychologique dans laquelle je m'étais moi-même plongé. Peut-être mon petit papy, de là où il était, m'avait donné ce petit coup de pouce et envoyé ce petit être merveilleux qui nichait au creux de mon ventre. Une vie pour une vie. Qui sait ?
Alors, après cet extrait, on a une question qui nous vient. Votre livre est, le livre est truffé de références aux signes, en fait, hein, Caroline, à plusieurs reprises. La question des signes apparaît, donc là, sur effectivement la fin d'un difficile combat, hein, celui de, comment dirais-je, de la grossesse que l'on essaie d'obtenir. Mais vous avez aussi, il y a des références aux signes, hein, on le voit plus tard dans le livre, lorsque votre compagnon part avec sa voiture et que votre petit garçon l'appelle. C'est une première fois, donc vous y voyez un signe. Lorsqu'il y a l'hôpital et que votre compagnon se bat pour survivre, là aussi, votre bébé, celui que vous attendez, bouge, hein, vous le signalez. Donc en fait, on avait envie de vous interroger sur la place des signes qui donne aussi quelque chose du côté de votre rapport à la vie, en tout cas ce qu'on en a compris. Voilà, est-ce que vous avez envie de vous exprimer sur cette question-là? Nous, ça nous a paru un fil assez conducteur.
Oui, c'est vrai que je suis hyper intuitif dans la vie et je me fie souvent aux signes. Alors, il y en a, ils disent que c'est bête, que enfin, il n'y a pas d'importance. Et pour moi, ça a une grande importance et je pense pour beaucoup de gens aussi. Et c'est vrai que je me fie toujours aux signes et peut-être que je m'accroche à ça ou peut-être que c'est dans ma tête, mais pour moi, c'est des faits. Ma petite fille qui bouge pendant que son papa est entre la vie et la mort. Il y a beaucoup de choses comme ça. Ou par exemple, même un simple chemin à prendre. Je suis mon instinct et poche, j'apprends que l'autre route, il y avait un accident, il fallait pas que je passe par là. Enfin, je vis comme ça, en fait, toujours au jour le jour, d'intuition. Et pour l'instant, ça a toujours porté ses fruits. Donc,
D'interprétation aussi.
Oui.
Tu vois, Alex Videri, en écrivant, est-ce que c'est des choses que vous avez repérées? Parce qu'en fait, vous avez la totalité du récit et éventuellement, vous l'avez reconstruit. Mais je ne sais pas si c'est des choses que vous aviez repérées dans votre écriture.
Bien sûr, et ça a d'ailleurs été une question entre nous. Est-ce qu'on abordait ça dans le livre? Parce qu'on sait qu'il y a des gens qui... Tu te souviens quand on en avait parlé? On sait qu'il y a des gens qui sont insensibles à ça, voire même contre ce genre de choses. Mais on se retrouvait là encore une fois avec Caroline là-dessus, puisque je suis plutôt intuitive aussi et j'écoute facilement les signes. Donc voilà, finalement, on s'est dit, bah si, on laisse les choses comme elles sont, puisque ça fait partie de sa vie, de son quotidien, de sa manière d'avancer. Donc voilà, mais oui, évidemment qu'en l'écrivant, tout de suite, enfin, on va dire dans les premiers entretiens, tout de suite, c'est quelque chose qui m'a sauté aux yeux et qu'on a abordé.
Merci beaucoup.
Alors, André, pour une deuxième lecture.
J.C. a eu un accident, J.C. a eu un accident, ça a l'air grave, il faut que tu viennes tout de suite. J.C. était déjà sur la table d'opération lorsque nous arrivions au CHU de Nantes. Après de nombreuses heures d'attente, on vient nous annoncer que mon chéri était sorti du bloc opératoire et qu'il venait d'être transféré en service de soins intensifs et réanimation. On avait enfin le droit de voir J.C. et là, ce fut un choc. De le voir branché à tellement de machines, c'était impressionnant. 3 jours après l'accident, les médecins ont voulu me parler pour me dire qu'il n'y avait plus trop d'espoir. Ils nous reparlèrent du don d'organes. Je savais que ma belle-famille n'était pas trop pour, mais pour moi, c'était important de dire à mes enfants plus tard que leur papa n'était pas mort pour rien, qu'il avait sauvé des vies et réuni des familles. En leur expliquant mon point de vue, ils acceptèrent. Le don d'organes est un acte magnifique, sincère et sans retour. C'est un sujet très important pour moi depuis, primordial même. C'est avec l'espoir que des parents, enfants, conjoints, frères ou sœurs n'aient jamais à vivre ce que nous étions nous-mêmes en train de traverser, que je refusais de laisser son sacrifice en vain. Et c'est ce qui me porta longtemps et me porte encore de savoir que 4 personnes et 4 familles entières ont pu être sauvées de la mort et du néant grâce à son don. J.C. s'en est allé, mais il a pu être le fruit d'un miracle avant de nous quitter. Il nous a quittés en héros.
«
Alors, c'est le moment de la pause musicale. Donc, je ne sais pas qui a choisi ou si vous avez choisi ensemble.
On en a choisi une, chacune,
d'accord,
qui était importante.
Donc,
pour nous.
La première chanson, c'est Nothing Compares to You de Sinéad O'Connor. FM 91.2 dans l'émission du CIALA écrit d'ici. Nous sommes en compagnie de Caroline Foisson et Alex Videri pour le récit biographique Sauvé par l'amour.
Par leur amour.
Par leur amour.
Ça a son importance, ce mot.
Pardon.
voilà, donc après l'extrait qui a été lu, hein, alors qu'on peut rapprocher de la question des signes, hein, puisque on l'a compris, donc un passage relativement émouvant pour vous, Caroline. C'est l'idée qu'il y a quelque chose qui se poursuit, hein, ça n'est pas arrivé pour rien, cette quête toujours un peu éperdue de l'être humain, de penser que les choses vont servir. Mais il y a aussi quelque chose dans ce livre, d'ailleurs c'est dit, c'est aussi quelque chose que vous léguez à vos enfants. Et peut-être, parce qu'on a eu un petit échange là tout à l'heure en aparté, plutôt que ce soit vous qui racontiez l'histoire, plutôt que de la laisser raconter par les autres. Est-ce que, justement, par rapport à vos enfants, qui sont encore petits, mais en âge d'échanger, est-ce que ce livre est un objet d'échange? Est-ce que les enfants ont interrogé des choses? Voilà, on est curieux de savoir si, effectivement, ça peut aider un peu tout le monde, ce récit.
Du coup, les enfants, en fait, ils ont su dès le départ que je voulais écrire un livre pour eux, pour raconter leur histoire. Et aussi, je leur ai dit que ce livre-là allait aussi aider, en fait, d'autres personnes aussi en difficulté ou qui se posent beaucoup de questions sur la vie, sur la famille, sur la perte d'un être cher. Et d'ailleurs, c'est le cas, parce que beaucoup de personnes m'ont écrit pour me remercier ou même dire qu'ils avaient fait des changements dans leur vie ou qu'ils avançaient plus sereinement et plus facilement suite à ces écrits-là, qu'ils se posaient moins de questions pour avancer. Mais c'est vrai qu'avec les enfants, je leur disais toujours « T'as vu, je suis en visio avec Alex ». Et ils savaient « Oui, oui, on sait très bien, c'est pour le livre de papa, le livre pour nous ». Et les enfants, en fait, il faut savoir qu'il ne faut rien leur cacher et qu'ils comprennent tout. Et justement, que si on leur ment, ils se sentent un peu trahis. Donc non, je ne leur ai rien caché, surtout sur leur papa, sur le livre, sur le don d'organes. Et c'est vrai qu'il n'y a pas longtemps, j'ai été chez la marraine de mon fils. Et comme c'est un enfant, c'est très spontané, c'est sans filtre. Du coup, mon fils, il arrive et il dit « Mon papa, c'est un super-héros ». Et là, j'ai dit « Pourquoi ton papa, c'est un super-héros ?»« Papa JC, c'est un super-héros parce qu'il a sauvé des vies ». Et j'ai dit « Oui, c'est vrai, il a sauvé des vies, il a donné son cœur ». Et du coup, il m'a dit je lui ai dit « Oui, son papa, c'est le plus grand des héros, il a sauvé des gens ». Et là, pof, il est reparti jouer et il nous a laissé. On était à table avec mon cousin et sa marraine et on était... Voilà, j'ai dit ça, c'est mon quotidien, mes enfants qui me sortent des choses comme ça. Et je pense que, comme nombreux parents, ont leurs enfants qui sortent des choses comme ça. Et du coup, on est choqués. Et au niveau de l'émotion, c'est dur. Et après, ça va mieux. Mais eux, ils ont tout de suite oublié. Donc voilà.
Merci.
Alors, on n'aura pas le temps pour la troisième lecture, je suis désolée. Par contre, on va quand même poser une question par rapport justement à la reconnaissance en paternité.
Oui.
Hein, parce que ça a été, dans le livre, vous le décrivez, puisque l'enfant est né après le décès et que vous n'étiez pas mariée. Vous pouvez nous parler un peu de ça?
C'est un gros combat. C'est pour ça que je tiens à dire aux gens, oui, on n'est pas mariage, mais en fait, mariez-vous, protégez vos enfants. Moi, ça a été très compliqué de faire reconnaître ma fille, de passer au tribunal. Alors déjà, on a toutes les épreuves de la souffrance, l'enterrement, tout à gérer, plus après gérer... refaire reconnaître son enfant, enfin, pour moi c'est un automatisme et non, le système judiciaire français c'est quand même compliqué et c'est pour ça d'où l'importance d'être marié et du coup
mais y a une, on peut faire parce que quand même à un moment donné dans le livre vous dites que il faut le faire au moment de
une pré-reconnaissance.
Voilà, c'est ça.
Oui, alors pour notre premier, on l'avait fait. Et pour le deuxième, en fait, on devait le faire le vendredi. Et je ne sais pas pourquoi, ce jour-là, JC, il voulait faire un million de choses. Il voulait qu'on range le garage, qu'on finisse une barrière. C'était un peu, tout était précipité, comme si c'était un peu le dernier jour de sa vie. Et malheureusement, c'était ça. Et on devait aller à la mairie. On a dit, c'est pas grave, on ira lundi. Et en fait, jamais reporter les choses importantes parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver.
D'accord. Donc en fait, même sans être marié, il y a quand même moyen de...
De faire une pré-reconnaissance.
Voilà, mais ça, il faut le faire en heure et en temps. Dès que...
Au moins une pré-reconnaissance. Mais c'est vrai que je trouve quand même que le mariage, ça a quand même d'où son importance. Même les enfants, ils me posent des questions. Pourquoi je n'ai pas le même nom? Enfin, c'est...
Ça, c'est...
Ils posent beaucoup de questions, mais ça va.
Merci beaucoup. Alors peut-être, avant la conclusion de Martine, une question à chacune de vous deux. Par rapport au livre, nous avons pris des angles d'attaque, bien évidemment, on n'a pas fait le tour. Est-ce que vous, Caroline, vous souhaitiez rajouter quelque chose que nous n'aurions pas vu ou pas mis en exergue? Et puis, la même question se posera à Alex Videri, en tant que plume de cet ouvrage.
Alors moi, je voulais juste souligner un point important que j'entends de temps en temps, mais quelque chose qui me touche énormément. Et en fait, je ne comprends pas pourquoi les gens soupçonnent que JC s'est suicidé, alors que absolument pas. Et, Et enfin, faut savoir que c'est quelque chose d'entendre des rumeurs comme ça, c'est très douloureux pour nous en tant que famille. Et donc, je tiens à dire qu'il ne s'est pas suicidé et il était très heureux de sa famille, très heureux d'avoir une petite fille. Limite, même, il nous saoulait tout le monde à dire « je vais avoir une fille, je vais avoir une fille, je vais avoir une fille, je vais avoir une fille ». C'était le plus beau jour de sa vie. Donc, je tiens à souligner ça et voilà, que les gens, ils arrêtent de colporter ces rumeurs-là parce qu'elles sont fausses. Voilà.
D'accord.
Elles sont fausses et douloureuses.
Et douloureuses surtout.
Alex Videri, quelque chose à dire sur le... Quelque chose à rajouter qu'on n'aurait pas vu.
Moi, je veux parler un peu de la fin du livre. Parce qu'on a parlé de beaucoup de choses douloureuses dans cette émission, mais on n'a pas parlé de la reconstruction de Caroline, qui a été extraordinaire. Enfin, moi, je suis très, très admirative de tout ce qu'elle a fait pour ses enfants. Elle s'est battue pour ses enfants et elle a fini par retrouver l'amour. Et après, elle a dû se battre à nouveau pour cet amour qui n'était pas forcément accepté par tous et qui se conclut de la plus merveilleuse des façons par une belle demande en mariage, voilà, qui va avoir lieu dans les prochains mois. Et voilà, et c'est une très belle fin. Et Caroline, elle exprime d'une façon extraordinaire. Et je pense que c'est important aussi pour les femmes et les hommes, qui ont perdu leur partenaire de vie, qu'on peut aimer vraiment passionnément deux hommes, avoir deux amours de sa vie. Et c'est comme ça qu'elle l'exprime. Et je trouve ça très, très beau. Il y a toujours la place de JC. Et maintenant, il y a la grande place aussi que prend Tristan dans sa vie et dans celle de ses enfants. Puisqu'il a complètement adopté, même si ce n'est pas officiel, mais dans son cœur, ses enfants. Et voilà, et la fin de l'histoire est magnifique.
Et d'ailleurs, elle est résumée par une citation d'Antoine de Saint-Exupéry, qu'on laissera le plaisir au lecteur de découvrir.
Alors sinon, Alex, donc ton actualité, là, tu écris d'autres biographies ou d'autres romans ou...
Alors, non, du coup, j'en profite, même si c'est déjà officiel sur les réseaux sociaux, j'arrête d'écrire des biographies par manque de temps. C'est pas par manque d'envie, parce que j'ai trouvé ces expériences extraordinaires, mais par manque de temps. Et là, du coup, j'ai des romans fictifs qui vont sortir, qui étaient déjà dans les rouages depuis quelques temps. Donc j'ai une duologie, une dystopie qui va sortir là, normalement sur 2023 et 2024. Et en probablement 2025, il y aura une romance sur la Première Guerre mondiale. Donc un registre tout nouveau pour moi, la romance. Et voilà, j'affectionne particulièrement ces périodes de notre époque. Enfin... affectionnée, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, voilà.
Intéressée, en tout cas.
Je suis intéressée, j'ai une admiration aussi pour les hommes et les femmes qui ont combattu à ces périodes-là. Et donc, voilà, donc l'actualité.
Donc, on se reverra. Alors, juste avant de... En tout cas, merci d'être venues, toutes les deux. De se quitter, donc, je signale les causeries du Palais au Sable d'Olonne les 12 et 13 mai. Donc, c'est autour du polar, hein, rien à voir avec... voilà. Et à Pinmar, en Bretagne, les 27, 28, 29 mai aussi, le festival du Goéland, aussi autour des Polars, où sera présente Aline Duret, qu'on a reçue il n'y a pas très longtemps. On termine avec Aerosmith, I Don't Want to Miss a Thing.
Stay lost in this moment forever.